Yasmin Shwaki.
Un sol majeur.
Sur la photo en noir et blanc, datée de 1955, l'arabe est à terre, les mains sur la tête, en position de soumission. Avec sa chéchia, l'indigène est aux ordres d'un militaire français qui, lui, se tient debout, scrutant l'horizon. Cette photo est en couverture d'un livre essentiel intitulé « Le trauma colonial », rediffusion en sol majeur, bienvenue. C'est une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie. Un travail exceptionnel et minutieux de la psychanalyste algérienne Karima Lazali, qui, bien après Frantz Fanon, revient sur les séquelles profondes produites par les 130 ans de colonisation française et entretenues après l'indépendance jusqu'à la décennie noire. Et c'est en remontant le cours de l'histoire et en relisant les auteurs algériens eux-mêmes que Karima scrute ce peuple algérien pour en finir peut-être avec le processus de l'expulsion du soi. Très heureuse de vous recevoir en sol majeur, Karima Lazali.
Je vous remercie.
Alors cette photo que je viens de décrire en ouverture, qui trône donc sur la couverture de votre livre, vous l'avez choisie parce qu'évidemment elle dit quelque chose de ce trauma colonial dont on va parler, dont on peut quand même 60 ans après l'indépendance se dire, c'est ce que moi j'entends, hein, oh, encore cette histoire de colonisation.
Ouais.
On en est encore là ?
Oui, oui. Alors, c'est très intéressant de le poser comme ça. À la fois, on a l'impression d'en parler énormément. Et ce travail est aussi né d'un agacement en Algérie à partir du moment où je trouvais que les gens ne parlaient que de cela. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on en parlait beaucoup pour ne pas en parler.
Mais et ça veut dire quoi, sans en parler ?
Et sans en parler, c'est-à-dire que précisément, quels sont dans chaque discipline les effets de la colonisation ? On ne peut pas ouvrir un énorme sac comme ça pour dire tout est lié à la colonisation. Parce que la première chose assez saisissante qui nous revient quand on parle comme ça, c'est finalement la manière dont la colonisation sert une déresponsabilisation. Et qu'au fond, du coup, ça ne nous permet pas de penser de manière fine, subtile, les conséquences précises de cette histoire dans chacun des champs disciplinaires. Vous voyez, donc, c'était pour sortir de cette espèce de globalisation du fait colonial. Comment en parler sans être dans une essentialisation et une globalisation ?
Bon, voilà. On va essayer à notre sauce en sol majeur de le faire un tout petit peu aujourd'hui et je propose de se promener dans le dédale de quelques points de votre enquête, Karima Lazali, enquête qui nous guidera peut-être jusqu'à vous.
À 600 km seulement des côtes de Provence, l'Algérie offre le plus bel exemple de ce que peut notre génie national quand il s'attache à une œuvre de civilisation et d'humanité. En 1830, Oran comptait 4000 habitants. Elle en compte à présent 200 000. Ces vieux faubourgs ont conservé toute leur originalité. Tant dans le quartier indigène que dans celui de la Calera, la foule est nombreuse, ardente et colorée.
I comme indigène.
Indigène, code de l'indigénat, ce sont des mots, des concepts, un statut, une législation pratiquée donc dans les territoires du Second Empire colonial français. Quelle est la grande spécificité, vous diriez, de la colonisation française en Algérie, Karima Lazali ?
La grande. Alors, il y aurait comme ça plusieurs traits spécifiques de cette colonisation. Le premier, me semble-t-il, c'est de fabriquer une mémoire brouillée par le biais de l'effacement. C'est-à-dire que la colonisation repose, en Algérie en tout cas, a reposé sur une série d'effacements. Le premier, c'est que c'était une colonie de peuplement, et donc il fallait repeupler le territoire par du blanc. Et pour cela, être dans un effacement des repères historiques, culturels, linguistiques, etc., effacement des généalogies, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais surtout effacement des traces du crime. Il y a une phrase très éclairante dans le premier Rome d'Albert Camus qui, à la veille de l'indépendance, attribue au colon, à un colon, un de ces personnages qui est un colon, ces paroles-là: si ce que nous avons fait ici est un crime, alors il nous faut l'effacer. La question de l'effacement, elle est centrale et elle ne s'adresse pas uniquement à l'indigène. Elle s'adresse à l'ensemble des membres de la colonie, c'est-à-dire aussi bien ceux qui ont été nommés indigènes, juifs, musulmans, que ceux qui ont été nommés européens, qui deviennent pieds noirs. Donc l'effacement s'adresse à tous ces membres-là, d'où notre difficulté avec les processus mémoriels dans les deux sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les indigènes qui sont pris dans un effacement mémoriel.
Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail, avec un mot qui retient notre attention, le mot disparition, vous rappelez qu'entre 1830 et 1847, il s'agit de tuer pour la France coloniale le plus d'autochtones possible et d'installer de manière définitive, et là on cite Tocqueville, la terreur afin de comprimer le peuple arabe. C'est-à-dire qu'il faut faire table rase du peuple autochtone jusqu'à une forme de disparition. C'est ce que vous disiez à l'instant. Et vous, Karima Lazali, psychanalyste, vous reprenez les mots de Mohamed Dib, grand auteur algérien, qui a cette phrase qu'il nous faut éclairer. Les colonisateurs ont changé les Algériens en fils de personne.
Oui, oui, c'est une phrase saisissante.
Qu'est-ce qu'il veut dire ?
Ce qui, alors, Mohamed Dib dit ça, mais quelqu'un comme Jean El-Mouhoub Amrouche pourra dire l'Algérien est un bâtard. En fait, le démantèlement de la société traditionnelle va bousiller, massacrer, détruire le lieu d'ancrage du dit indigène. Et alors, pour cela, l'imposition de l'état civil va être un des maîtres d'œuvre de ce travail de saccage du lieu d'ancrage, puisqu'il s'agit absolument de casser tout ce qui relève du collectif indigène. Or, c'est une société où le collectif, ce n'est pas l'individu qui prime, mais plutôt la collectivité. Alors, cette façon de casser la collectivité va permettre, va faciliter les expropriations de terres, va permettre de casser le système d'héritage, mais ça va permettre aussi à l'administration française de repérer qui est qui. Parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, il y avait un système de nomination traditionnelle très particulier, où l'individu n'avait d'existence qu'en tant que fils d'un père, lui-même fils de tel autre père. Donc c'est comme ça qu'on était nommé Ben, donc fils de tel père, lui-même fils. Donc en fait, le père est un agent de médiation dans le lien tribal avec le chef de tribu.
Et comment le système colonial détruit ce lien ?
Alors, en attribuant des patronymes qui n'ont sans aucune allusion ni à la généalogie, qui sont décrochés du lien généalogique, qui sont décrochés de l'histoire familiale et qui sont décrochés également de la localité, c'est-à-dire de la terre. Alors qu'auparavant, la nomination se faisait en référence au lien généalogique tribal et à la terre. Donc on va, à partir du moment où cette référence-là sera cassée, les indigènes, les Algériens eux-mêmes ne sauront plus qui est qui. C'est ce que nous dit Kateb Yassine dans Nejma.
Oui, parce que pour penser la chose, si j'ose dire, Karima Lazali, vous avez décidé d'intégrer dans votre dispositif des éléments évidemment d'histoire, mais aussi de la littérature. Pour quelle raison ?
Alors, si on ne sait plus qui est qui, pour revenir sur... eh bien, on entend ce que dit Mohamed Dib, à savoir que l'Algérien devient fils de personne. Il y a quelque chose d'une anonymisation qui devient terrible et qui constitue une offense majeure, puisque Freud nous dit que l'individu n'existe pas sans son nom. Le nom est une partie intégrante de son âme. Alors, pourquoi la littérature ? Eh bien, parce que, en tant que psychanalyste, vous imaginez bien que les faits d'histoire sont importants, mais ils ne parlent pas suffisamment pour que je puisse en faire quelque chose. Donc il me fallait de la parole. Et à lire les faits d'histoire avec la littérature, il s'est produit quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que cette littérature me donnait à lire et à entendre ce que les faits d'histoire relataient sans raconter subjectivement.
Alors avec Nejma que vous citiez, donc de Kateb Yassine, on est dans le roman, on va dire, emblématique justement de ce trauma colonial. Rapidement, avant qu'on écoute un court extrait de Nejma, qui est cette fameuse Nejma et de quoi est-elle le symbole ?
Alors Nejma est une très très belle femme qui est mariée à son insu avec son demi-frère et qui a plusieurs prétendants autour d'elle. Et Kateb Yassine fait courir le soupçon, le doute, que tous seraient ses demi-frères. Et en effet, si le lien généalogique est détruit, eh bien ce que nous dit Kateb Yassine, et c'est cela que Nejma représente dans sa beauté étincelante, c'est que si on ne sait plus qui est qui, le risque étant celui de l'inceste.
En tout cas, cet effacement du père, le père devient dans l'inconscient collectif quelque chose qui se rattache au père inconnu. Cet effacement inspire à Kateb Yassine ce passage de Nejma.
Comprends-tu ? Des hommes comme ton père et le mien. Des hommes dont le sang déborde et menace de nous emporter dans leur existence révolue, ainsi que des esquifs désemparés, tout juste capables de flotter sur les lieux de la noyade sans pouvoir couler avec leurs occupants. Ce sont des âmes d'ancêtres qui nous occupent, substituant leur drame éternisé à notre juvénile attente, à notre patience d'orphelin ligoté à leur ombre de plus en plus pâle. Cette ombre impossible à boire ou à déraciner. L'ombre des pères, des juges, des guides que nous suivons à la trace, en dépit de notre chemin, sans jamais savoir où ils sont.
Karima Lazali pour en sol majeur sur RFI. Donc on le comprend bien, l'un des risques terrifiants de cette absence de père et de repère, et que Kateb Yassine met magistralement en acte, c'est donc le risque d'inceste. Si on s'avance sur le terrain clinique qui est le vôtre, ces multiples absences dont vous nous parlez, disparition du nom, de la langue, de l'histoire, de la terre, ces multiples absences, ça porte un nom chez vous. Ça s'appelle un blanc.
Oui, tout à fait. Ça s'appelle un blanc. Alors, le pire, finalement, c'est pas le meurtre du père. Le pire, c'est que ses pères aient été des disparus sans sépulture. Finalement, le fait qu'il y ait eu des crimes de masse, il y a eu les enfumades de tribus entières, jusqu'à 900 personnes dans une grotte, la question des crimes collectifs et de masse va faire que la sépulture ne va pas pouvoir tenir comme lieu de remémoration et de recueillement pour ses fils qui ont été atteints dans leur lien généalogique et donc dans leur sentiment de légitimité.
Et donc d'où l'impossibilité du travail de deuil par rapport au patrimoine, par rapport à la terre, par rapport à la langue, par rapport à la disparition des pères. Il y a de multiples pertes dont il aurait fallu faire le deuil.
C'est ça. Alors, disparition du lieu du père, c'est-à-dire de l'ancrage. C'est pas le père un par un, c'est le lieu de l'ancrage. En effet, plusieurs disparitions, d'où le blanc est utilisé là pour archiver. Le blanc est ce qui archive ces disparitions qui n'ont pas pu faire trace et qui laissent les vivants dans quelque chose d'une suspension, ni vivant ni mort. Puisque si vous ne pouvez pas enterrer vos morts, alors êtes-vous vraiment si vivant que cela ?
Alors ça, c'est l'un des effets, justement pour reprendre votre titre, du trauma colonial, c'est-à-dire de ne pas reconnaître ces disparitions majeures. Et c'est ce qui se passe, vous le disiez, au moment de l'indépendance algérienne. Et c'est ce qui expliquerait, selon vous, la série de meurtres et la falsification de l'histoire et du religieux aussi au lendemain de l'indépendance.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé au lendemain de l'indépendance, c'est que le sentiment d'évidement intérieur a été tel, et de destruction intérieure, le fait de se sentir vidé sur quand même 132 ans, c'est-à-dire plusieurs générations d'hommes et de femmes. On hérite de cela, puisque c'est ça qui finit par faire histoire quand même. Eh bien, ça a mené les individus à être dans une immense avidité. Avidité de biens, avidité de pouvoir, glorification des martyrs. On est dans du cumul.
On est dans l'avoir et plus dans l'être.
Voilà, exactement.
Impossibilité d'être dans l'être.
Exactement, difficulté. Oui, oui, tout à fait. Mais d'où aussi la glorification des martyrs. C'est-à-dire que ça permet de mettre l'accent sur la part héroïque de la guerre. Mais ça nous éloigne finalement de toutes ces pertes qui, elles, ne se réparent pas par du colmatage.
Alors, il y a pour l'ancien colonisé, ce que vous appelez, vous, psychanalyste, un refus de soi. Comme l'exprime très bien quelqu'un qui est une lumière, pour vous, un phare, j'ai l'impression, littéraire, c'est Jean Al-Mohoub Amrouche. Dans un texte où il met en miroir Jugurtha, ce fameux roi numide, et Narcisse. Alors, essayez de nous expliquer ça, cette mise en miroir entre ces deux figures.
Alors, ce que nous dit Jean-Mouroub Amrouche, c'est que finalement, à être trop dessaisi, vidé, l'indigène, à un moment, il va être capté par lui-même. Ce qui est très important à entendre, c'est que dans la colonisation, il y a quelque chose d'une captation. Et donc, cet indigène-là va de plus en plus s'éloigner d'un certain rapport à l'honneur qui se retrouve chez Jugurtha, même si l'histoire est plus complexe, peut-être qu'on le verra plus tard, pour finalement succomber à son propre reflet et devenir Narcisse. Et je trouve que c'est très intéressant pour penser ce qu'a été l'indépendance algérienne, c'est-à-dire une façon d'être tellement horrifié par ce soi qui est vide, par cette disparition du lieu de l'ancrage, que qu'est-ce qui va rester d'autre que de succomber à son propre reflet et de chercher à le glorifier, un peu comme Narcisse, sauf qu'il y a quelque chose là-dedans de suicidaire, nous dit Jean El-Mouhoub Amrouche, et qu'au fond, ça serait plus salutaire pour cet individu empêché d'être en deuil, de se pencher sur ses pertes plutôt que sur ses glorifications.
Il faut comprendre que la première condition nécessaire pour exister est d'avoir un nom qui vous soit propre, qui ne soit pas dérobé, usurpé ou imposé. Que de temps à autre, des individus, cas exceptionnels et aberrants, déracinés du passé de leur race, parviennent à s'enraciner dans le corps d'une nation d'adoption, c'est parfaitement concevable. Comme il est concevable que des émigrés oublient leur pays d'origine, que généralement ils ont fui pour de bonnes raisons. Mais assimiler sur place tout un peuple suppose la destruction progressive de ce qui le constitue comme peuple, c'est-à-dire proprement un génocide.
Pour en sol majeur, les mots de Jean El-Mouhoub Amrouche, donc le poète algérien d'expression française, le mot génocide ne vous semble pas trop fort, Karim Alazani ?
Alors, quand il parle de génocide, il l'articule d'une manière très précise, c'est-à-dire qu'il évoque la question des crimes de masse, qui quand même ont été quelque chose de constant tout au long de cette histoire-là. Et puis, c'est le génocide aussi ethnique, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire disparaître tout ce qui structurait cette société. Et puis, il est saisissant de constater que quand même, ces crimes de masse ont commencé donc à partir de la conquête, mais quand on sait ce qui s'est passé plus tard dans les années 40 avec la Shoah, il y a des coïncidences temporelles qui sont saisissantes. Quelle folie meurtrière s'est emparée de ce siècle-là.
Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Sigmund Freud?
Non,
c'est pas possible. Alors juste pour le plaisir en sol majeur.
I started my professional activities as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on.
Totem et tabou.
Nous y voilà. Parce que comment penser ce fameux trauma colonial d'un point de vue totem et tabou, d'un point de vue freudien, Karima Nazali?
Oui, d'un point de vue freudien. Le totem et tabou est un texte construit un peu comme un mythe qui va nous raconter comment naît la société humaine et le vivre ensemble. Ce que Freud nous raconte dans ce texte, c'est que nous naissons au lien social, à partir d'un meurtre fondateur, c'est donc un mythe, qui est le meurtre du chef de la tribu, qui avait tous les biens, vous entendez le parallèle, était un espèce de chef tyrannique, qui fonctionnait en confisquant, en privant en permanence ses enfants, ses fils, des avoirs qu'il avait, alors que lui les multipliait, donc biens et femmes. Eh bien, ses fils n'en peuvent plus un beau jour et donc vont se liguer, vont le tuer, vont le manger. Et là où ils pensaient, ses fils, qu'à partir de ce meurtre, ils auraient tout ce dont ils avaient été privés auparavant, eh bien, c'est exactement l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir tellement coupables de ce crime qu'ils vont honorer la mémoire de leur père et ils vont s'interdire le crime et l'inceste. Et donc, il y a des traces de mémoire qui vont servir de limitation psychique. Et donc, le vivre ensemble va être possible. Le vivre ensemble n'est possible que parce que le crime
sur des interdits.
Est interdit. Voilà, exactement. Eh bien, si les colonisateurs se sont donc chargés de tuer le père, mais surtout de faire du père un lieu de disparition par l'absence de sépulture, il n'y a donc ni trace de mémoire, si on reprend Freud, ni sentiment de responsabilité, mais il va y avoir à la place une plainte mélancolique, hémorragique, infinie, qui ne permet même pas à l'individu de repérer ce qui en lui est pris dans une béance. Voilà.
Et comment penser, toujours d'un point de vue psychanalytique, le fratricide ? Comment penser la décennie noire où on a vu des Algériens égorger d'autres Algériens ?
Alors voilà, si donc le lieu du père est pris dans la disparition, si les généalogies elles-mêmes ont été effacées, falsifiées, que ce qui structurait la société traditionnelle du côté des limitations ne fonctionne plus. Il faut savoir que dans la colonialité, c'est la loi du crime qui règne, en tout cas pour les indigènes, puisqu'il y a une coupure radicale entre la République française et le politique colonial. C'est quand même très important. Oui, oui. Mohamed Harbi, un historien, dit qu'il y a les deux visages de la France. La question du clivage et de la coupure nette sont des choses absolument saisissantes.
Un refoulé monarchique qui se serait joué sur les terres coloniales.
Alors voilà, ça c'est un peu la piste. Et en effet, je suis remontée jusqu'à la Révolution française pour me rendre compte que finalement, l'Algérie est une conquête de la monarchie, que le politique français a été pris dans des espèces de retournements, dans des espèces de déchirements entre le monarchique et le républicain, que l'Algérie a été un territoire où finalement n'a cessé de s'exercer ce qui, de la monarchie, était tombé en métropole pour les indigènes. Mais alors, pour revenir à la question du fratricide, en fait, si les limitations qui permettent à la société traditionnelle de tenir ne tiennent pas, si le père, comme limite et comme trace de mémoire, ne vient pas arrêter les velléités humaine du meurtre, eh bien, en effet, il y a un passage chez Freud où il nous explique qu'il existe un cas un peu exceptionnel où les fils, après le meurtre du père, ne vont cesser de s'entretuer pour qu'il n'y en ait qu'un qui reste et qui soit l'élu. Alors, ça, c'est extrêmement frappant dans le cas algérien. Mais le fratricide est constitutif de l'histoire de notre humanité. Hein, ce n'est pas... Oui. Voilà. Donc, comment il y a certains tissages politiques, le lien démocratique, nous dit Nicole Laureau, est là comme un traitement du fratricide permettant le vivre ensemble. Comment, quand cette affaire est défaillante, quand certaines politiques sont défaillantes, le fratricide continue à agir et à structurer le politique ?
Si on s'autorise un peu d'interdit, si on pousse la porte de votre cabinet de psychanalyste, Karima Lazali, de quoi souffrent les ex-colonisés ou descendants d'ex-colonisés qui viennent vous voir aujourd'hui ?
Oui. Alors, sur un certain point, j'ai envie de dire, les demandes sont les mêmes. Que je travaille à Paris ou que je travaille à Alger, ce sont des symptômes extrêmement similaires, des plaintes extrêmement similaires. Par contre, ce qui était saisissant comme point de différence, c'est la manière dont les individus étaient empêchés d'être eux-mêmes et ne trouvaient pas sur la scène sociale cette autorisation à vivre sa vie librement et à être maître de soi. Et qu'il portait, me semble-t-il, en tout cas c'est ça qui m'a interrogée, cette part du collectif malade. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'histoire, c'est donc par cette part du collectif malade qui vivait en chaque individu en Algérie, qui mettait dans des sentiments d'accablement, d'asphyxie, d'immobilisme. Alors on voit bien que l'actualité là nous emmène vers exactement autre chose. C'est par cette part malade du collectif que je suis rentrée dans cette histoire. Et là, il y aurait une distinction, c'est-à-dire cette difficulté à avoir l'impression que le collectif vous autorise à vous vivre comme étant différent.
Oui, il y a une révolution de l'intime qui est en train de se jouer en Algérie. Une question sur la langue, parce que c'est évidemment intéressant pour la freudienne, la lacanienne, je ne sais pas. Les analysants vous disent que, enfin c'est vous qui le comprenez comme ça, la parole ne reste pas.
Oui.
En arabe, on dit...
Mabqatch al-kalma.
Et vous détectez toujours dans la langue arabe d'aujourd'hui des traces liées aux pratiques de la torture pendant la colonisation, à la mutilation des corps indigènes, des découpages de têtes et des oreilles qu'on retrouvait sur les corps des vivants.
Oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a des enfants à qui on dit que s'ils ne se tiennent pas tranquilles, on va appeler Bugeaud. C'est quelque chose qui a...
Général.
Oui.
Terrifiant.
C'est quelque chose qui a été comme ça, un discours qui a été très, très présent. Qu'il y a une expression en arabe qui dit quand vous êtes en colère contre quelqu'un, bah alors que va-t-il me faire? Va-t-il me couper l'oreille? Et en fait, c'est des expressions que j'entendais, au-delà de mes analyses, hein, que j'entendais dans la société, mais je ne connaissais pas leur résonance historique. Vous voyez, l'effacement, il est là. C'est quand vous n'arrivez plus à faire de liaison. Or, en me penchant sur ces faits d'histoire, je me suis rendu compte qu'en effet, là, les oreilles coupées étaient une pratique courante dès les premières années de la colonisation et étaient vendues sur les marchés. Voilà. Donc la question de la mutilation a été là antérieurement à l'institution de la torture pendant la guerre de libération.
Est-ce que les Français eux-mêmes, qui ont un lien avec cette Algérie, je pense notamment aux pieds noirs, mais aussi aux hommes politiques français, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin, vous pensez, d'un petit tour par la case psychanalyse ? La guerre d'Algérie et la colonisation étant encore un monstre tabou, il n'y a qu'à regarder nos manuels d'histoire en France.
Oui, exactement. Alors, ce n'est pas une question de volonté. Le silence politique sur cette histoire, qui est une partie de l'histoire française, ne relève pas d'une volonté politique, me semble-t-il, mais ça nous dit que l'effacement continue, malgré les indépendances, à travailler les politiques.
Mais alors, le responsable, parce qu'il en faut un à un moment donné.
Alors, si on reprend la question du politique français, on se rend compte que là, il y a eu quand même quelques avancées. On a vu reconnaissance de
colonisation,
crime
contre l'humanité.
Oui, mais surtout, enfin, me semble-t-il, l'affaire Rodin, qui a permis à la population française d'entendre que ça n'était pas qu'une affaire qui concernait uniquement les indigènes et que les Européens pro-indépendantistes ont été traités de la même manière que les indigènes. C'est un des grands scandales quand même. Ça veut dire que pendant des années, on a été dans un déni, qu'on est quand même un peu sorti de ce déni. Il y a eu plusieurs étapes, dont 99, la reconnaissance par le président Jacques Chirac de la guerre et non pas des événements d'Algérie, mais que jusqu'à maintenant, on n'est plus dans le déni, mais on est dans une forme de désaveu. C'est-à-dire qu'on commence à reconnaître quelque chose pour aussi vite annuler ce qui a été reconnu et revenir sur ses pas. Et je crois vraiment que ce n'est pas une question de volonté, c'est la manière dont cette histoire continue à travailler les générations par l'effacement. Le silence n'est qu'un effet de l'effacement.
On va souffler en sol majeur, en passant une petite tête par Marseille, pour retrouver un groupe qui malheureusement s'est dissous, c'est Troublemakers. Vous aviez envie d'écouter Karima Lazali, Get Misunderstood. Rapidement, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce morceau ?
Le rythme. Je trouve que le rythme est absolument extraordinaire. Le rythme de cette chanson, il y a quelque chose du cri, d'un cri subjectif.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « Nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « Toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils n'avaient pas faite et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
Glorious passant, ça n'est plus rien.
Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre.
Thank you. Il est malade. C'est le temps d'avoir notre président plus jeune, plus dynamique, quelqu'un qui a une vision économique. Nous n'avons aucune vision.
Ça fait 24 mois que je suis venu à cette présidente. Regardez, il y a un signe de vie.
On ne va pas s'arrêter. On se bat pour une vie digne, pour une vie décente. On en a marre de la corruption. On en a marre de ce pouvoir depuis 20 ans. Et on ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, le peuple est en train de reprendre confiance en lui. Il y a une sorte d'espoir.
Nous sommes l'avenir de ce pays. Nous sommes l'avenir de l'Algérie.
Et oui, les yeux du monde et de RFI sont évidemment braqués sur cette Algérie qui dit non au cinquième mandat de Bouteflika. On salue vraiment l'humour de cette rue algérienne, son intelligence. Et d'ailleurs, il y a un lien, vous faites ce lien, vous, Karima Lazali, entre ce blanc psychanalytique dont on parlait tout à l'heure et le fameux cadre. Bouteflika, il incarne quoi exactement ?
Alors, il incarne quoi ? Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'au moment où il annonce qu'il se présente pour un cinquième mandat, ça produit de manière quasi unanime et surtout sans leader, sans organisation politique, quelque chose d'un soulèvement qui peut-être est en train d'être révolutionnaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que l'annonce d'un mort-vivant, va emmener un refus massif. Est-ce que les Algériens sont en train de dire « Nous refusons d'être représentés par un mort-vivant » ou sont-ils en train de dire « Nous savons très bien que le mort-vivant affiché n'est qu'un écran à autre chose, à savoir que le véritable lieu du pouvoir décisionnel en Algérie a toujours été floué, brouillé. Et donc le mort-vivant vient faire écran à quelque chose. » Mais je me demande de plus en plus, parce que le grand drame des individus dans la société algérienne, c'est de ne pas pouvoir enterrer leur mort. Et ça va faire bientôt 2 siècles. Mmh. Et je me demande si les manifestants ne sont pas en train de dire « Laissons les morts mourir, nous sommes vivants. » Voilà. Alors, ce qui m'emmène à penser ça, c'est le nombre de personnes pendant les manifestations qui ont les noms des disparus, soit des années de guerre intérieure, les années 90, où les familles ont à nouveau été empêchées de faire le deuil de leurs enfants, de leurs frères, de leurs maris, etc. Et il y a également le nom de ceux qui ont été des martyrs. Et cette façon d'inviter les disparus aux manifestations, c'est quand même une, il y a là un appel à essayer de fabriquer du deuil.
Est-ce que vous êtes quelqu'un du dedans ou du dehors ?
Karima Lazali.
Eh bien, je navigue entre le dedans et le dehors d'une façon permanente, peut-être même un peu inquiétante. Le dedans et le dehors a commencé par ma pratique de psychanalyste où en permanence, je suis invitée à voyager dans les dedans des personnes qui m'invite. Et puis, dedans et dehors, également dans les histoires entre la France et l'Algérie. Dans ce trajet entre la France et l'Algérie, quel serait mon dedans et quel serait mon dehors ?
Ben voilà, c'est ça la question. Et pour croquer une psychanalyste, pour la croquer en sol majeur, c'est pas une sinécure. Vous êtes née en 78, hein, Karima Lazali. Donc, je note que vous étiez quand même gamine pendant la décennie noire. Vous vivez depuis 3 ans entre Paris et Alger, mais 3/4 de votre temps est à Paris, le reste à Alger. Mais la question en sol majeur, c'est à quel lieu vous pensez appartenir ?
Oui. Ça fait pas 3 ans que je vis entre Paris et Alger, mais 12 ans. Alors, en effet, j'ai grandi à Alger. Alors, gamine, pendant la décennie noire, une grande gamine et une adolescente aussi, Et en fait, je retourne travailler à Alger depuis 2006. Alors, la majorité de mon temps, en effet, je vis et exerce à Paris, mais je vais régulièrement travailler à Alger. Et il était très important pour moi de rester active dans la société algérienne.
Pourquoi ?
Alors pourquoi il m'est très plaisant de vivre dans deux sociétés, mais extrêmement plaisant de vivre dans plusieurs langues. J'adore prendre l'avion, j'adore les aéroports et en fait c'est très fidèle à ma position dans mon métier, cette espèce de balade comme ça, ouais, un peu permanente. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça me permet de penser, ça me permet de me reposer d'un lieu, d'aller découvrir un autre lieu.
Ça et répond pas à ma question.
Oui, alors je vais y venir. En fait, ce qui m'importe, c'est le trajet entre le dedans et le dehors. Ce qui m'importe, c'est le trajet entre la France et l'Algérie. Je ne suis pas sûre que le dedans soit identifiable et le dehors identifiable à un pays. Je peux être autant dedans à Alger, qui a été le lieu de mon enfance, de mon adolescence, tout comme je peux y être dehors en me retrouvant dans certaines situations où finalement j'ai l'impression que c'est très loin de moi. Même chose à Paris.
J'ai envie de citer une phrase de votre texte magnifique que vous m'avez confié, un texte intitulé « D'une cassure, les mondes jaillissent ». Et vous dites... Mais l'exil ne se réduit ni au départ, ni à la fuite, ni au déplacement géographique. Il est une disposition du psychisme. C'est le mouvement d'un sujet en lutte pour continuer à advenir au texte de sa déclaration d'existence.
Oui. La question du trajet, elle est fondamentale, beaucoup plus que celle de l'arrivée, du départ ou de la destination. C'est-à-dire que le trajet nous emmène bien loin que la question de l'origine. Dans ce trajet, en permanence, vont s'écrire de nouvelles émotions, de nouvelles pensées. Vous êtes prise dans quelque chose d'une tension entre le familier et l'inconnu.
Alors, restons dans le mouvement. Je vous emmène du côté de la Blanche, du côté d'Alger. Voilà des sons que l'on doit à la cinéaste Elisabeth Levray que vous nous avez confié pour en sol majeur. Vous aimez ces sons alors, Karima
oui.
Lazali? Qu'est-ce que vous y percevez? Qu'est-ce que vous revivez avec ces sons?
Eh bien, les sons, ça fait partie d'un dedans extrêmement intime et pourtant c'est dehors. Et finalement, comment on pourrait qualifier ce qu'a été un lieu de naissance et de vie quand on l'a quitté? Qu'est-ce qui nous en reste?
Donc il y a des langues, il y a des corps,
oui,
et il y a la foule à laquelle vous êtes très attachée.
Oui, je suis très attachée à la foule. Pourquoi? Alors, très simplement, je pense que ça me vient de l'endroit où j'ai grandi. J'ai grandi à Alger Centre. Et ce qui me fascinait, et me fascine jusqu'à maintenant, c'est d'entendre que la ville n'est pas prise par les mêmes sons selon les moments de la journée. Et vous n'avez même pas besoin de voir votre montre, de lire l'heure. Les sons vous indiquent le temps de la journée.
Donc c'est le texte biologique de la ville. Pour reprendre vos termes de psychanalyste, est-ce qu'il y a des vides, est-ce qu'il y a des blancs dans l'histoire de votre famille à vous?
Oui, j'échappe pas à l'histoire, en effet. Du côté maternel, c'est la question du nom qui a été transformé. Et puis, cet oncle de ma mère ont tous été fusillés et le seul restant survivant a été lui torturé. Et jusqu'à avant qu'il ne meure, il y a quelques années, il n'avait pas d'ongles, pas de dents, enfin bon. Donc la question de la torture, et alors ça c'est du côté de l'Est algérien.
Et de la mutilation des corps.
Et de la mutilation des corps. Et du côté de mon père, là où je suis prise dans un blanc, c'est l'origine de mon nom, qui est extrêmement énigmatique. donc avec toute une légende familiale qui peut raconter que c'est un nom d'origine turque, comme beaucoup de gens qui sont sur Alger. Mais enfin, il y a quelque chose de légendaire là-dedans. Il n'empêche que remonter l'histoire du nom est quelque chose d'assez difficile. Voilà, donc je n'échappe pas à l'histoire collective dans laquelle j'ai été construite et avec laquelle je travaille.
Est-ce qu'il faut, pour devenir psychanalyste, passer soi-même par un mal-être au monde ?
Ah, très probablement, oui, parce que oui. Je pense que ça n'est possible que si on est absolument traversé par une question ou une douleur existentielle énorme.
Et sans rentrer dans l'intime, est-ce que c'était lié cette souffrance à ce que vous appelez, vous, le trauma colonial ?
Alors, ça a été lié en grande partie à mon départ d'Alger dans les années 94, ce qui a été pour moi extrêmement douloureux puisque j'étais adolescente.
Donc en pleine décennie noire.
Guerre intérieure. Parce que vous voyez, décennie noire, je parle du blanc, vous parlez du noir, et bien de quoi on parle ?
D'accord.
Alors d'autres peuvent appeler ça décennie rouge, etc. Donc oui, j'ai été très affectée par cette disparition de ce qui a été mon ancrage dans la ville d'Alger, mais je crois que on fait une analyse parce qu'on est tiraillé par, ça peut être cette souffrance-là, mais à l'arrière-plan, il y en a d'autres.
Mais faire une analyse, c'est pas forcément devenir psychanalyste.
Exactement.
D'où est né ce désir d'être psychanalyste ?
Alors, quand j'étais enfant, je voulais être psychiatre parce que j'étais fascinée par des amis de mes parents qui étaient psychiatres et qui avaient un enfant, on dit schizophrène, et j'avais très très peur de cet enfant. Ça m'intriguait beaucoup parce que le jour où mes parents m'ont expliqué que psychiatre c'était soigner la folie, ce que j'ai dit à mes parents, mais alors pourquoi ils soignent pas leur fils ? Mais vraiment, c'était très très intriguant pour moi.
Puisqu'on est sur cette histoire de langue, est-ce que le fait de pratiquer en tant que psychanalyste en français et en arabe, ça change quelque chose pour vous ?
Ah oui, alors ça change quelque chose parce que j'ai fait mon analyse en français et d'exercer à Alger où je peux travailler en arabe, ça me met au travail dans des zones de langue intimes que je n'avais pas soupçonnées. Ça réveille des zones de langue qui étaient endormies, qui n'étaient pas rentrées telles quelles dans mon analyse qui, elle, s'était déroulée en français.
Donc il y a une libération dans cette langue arabe quand vous pratiquez. Et de l'autre côté, un sentiment d'englument de la langue française. Donc il y a du Duras dans votre bibliothèque, énormément, on n'a pas le temps de l'évoquer. Mais pas seulement, il y a aussi, et ça c'est plus rare peut-être aujourd'hui comme référence, un certain Georges Bataille. Georges Bataille, 1897-1962, écrivain français assez étrange à qui l'on doit des écrits fascinants sur la mort et sur l'érotisme, des écrits qui ont fait scandale évidemment à l'époque. On va retourner une seconde en 1958, lorsque le journaliste Pierre Dumayet lui demande si l'érotisme en littérature est un enfantillage.
Je ne sais pas si la littérature se distingue de l'érotisme en général à cet égard, mais il me semble qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin de l'érotisme dans son ensemble. Est érotique quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Et l'homme que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver et il va toujours assez loin pour avoir peur. Il ne se contente pas de ce dont les adultes vraiment sains se contentent. Il lui faut avoir peur, il lui faut se retrouver dans la situation où il était enfant et où il était menacé constamment d'être grondé, même très sévèrement, d'une façon insupportable, intolérable.
Mille choses à dire, j'imagine, sur cet archivina sur RFI pour en sol majeur en écoutant ce Georges Bataille, Karima Lazali. Ça m'inspire une question en tout cas. Est-ce que l'Algérie, pour vous, est une terre érotique ?
Oui. Il faudrait que je vous en dise plus.
Ça mérite un petit développement.
Oui, c'est une terre érotique.
Au sens Georges Bataille ?
Ah, au sens Georges Bataille. Ce qui est très intéressant chez Georges Bataille, c'est qu'il en appelle à un franchissement des limites intérieures d'une façon permanente. Et il y a une pensée de l'érotisme chez Bataille, comme on la trouve nulle part ailleurs, me semble-t-il, et du corps dans ce qu'il a de plus effrayant. Vous savez, les enfants sont effrayés par leur corps. La grande question des enfants, et je trouve que Bataille déplie ça d'une façon magistrale quand on écoute les enfants, c'est comment mon corps est construit. Quel ordre y a-t-il dans mon corps ? C'est pour ça que les enfants passent leur temps à essayer de construire des choses, sont intéressés par les tuyaux, sont intéressés par les joints, par comment ça marche, par la mécanique. Parce qu'en fait, ils cherchent à s'interroger sur comment marche ce corps qui, par moments, leur échappe complètement. À commencer par les premières érections, l'excitation sexuelle chez l'enfant qui arrive comme une déflagration dès le très jeune âge. Donc le corps est un mystère qui occupe l'enfant et qui sera au cœur de la pensée de Georges Bataille.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire urgemment aux éditions La Découverte, le trauma colonial, sous-titré Une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie. Merci et choukran Karima Lazali. Il nous reste une dernière madeleine en sol majeur à partager avec vous, celle de Dahmen El-Harachi. Vous adorez
oui.
Ce shahabi, ce blues algérois, ouais. Comme on dit, c'est comme ouais. Ça qu'on le présente. Qu'est-ce ouais. Que ça vous rappelle quand vous l'écoutez ?
Mon père qui écoutait du shahabi.
Papa était psychanalyste ou pas ?
Ah, pas du tout, non. Non, pas du tout, mais il adorait la musique shahabi. Qui est une musique subversive, très intéressante. Il y a une poésie, il y a une subversion, il y a un travail d'écriture qui est fabuleux dans cette musique-là.
محبوبي راه باقي في البلاد وانا يا مشداق هذيك الغمزه باينه مبنيه على النقص والغدر
مبنيه على النقص والغدر
ما فيها حتى فايده تكوي من شفها ينقهر
هذيك الغمزه باينه مبنيه على النقص والغدر
مبنيه على النقص والغدر
ما فيها حتى فايده تكوي من شفها ينقهر
هذيك النظرة مهولة على الغدرة راهي معولة تقول شي في الشبكة مخبلة ليا منها ترميه للبحر خزرتني بخزرة هايلة والتبسيمة كيم بالسما والضحكة صفرة مدبلة اللي تضحك له يطيح في الجمر وعلاش في الحيلة مخبية
En sol majeur, avec Facebook, Twitter et en podcast sur votre application Pure Radio. Émission également à retrouver avec le trio Caroline Filliette, Laura Pinto et Yasmine Chouaki. La semaine prochaine avec le photographe Ilyes Grieb. À la semaine prochaine.
Demain sur RFI.